Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette semaine, dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, je reçois Marie Camier-Théron. Marie est chef de projet événementiel chez Mademoiselle.com, donc oui, c'est ma collègue, absolument. Mais elle est aussi la cofondatrice de l'association Les Internets, I-N-T-E-R-N-E-2-T-E-S, qui a pour objet de promouvoir le travail des créatrices de vidéos sur Internet. J'ai voulu lui tendre le micro de Sois gentil pour qu'elle puisse nous parler du mouvement hashtag mon corps sur YouTube qu'elle a lancé avec Les Internets vendredi 25 mai. Mais je voulais surtout te donner, à toi qui m'écoute, l'opportunité d'entendre Marie parler de son histoire et de son parcours, que je trouve très inspirant. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute.
Mais il y a tellement de notes.
Tu veux dire que j'ai un syndrome de la bonne élève, par exemple?
Alors, pour l'instant, vraiment, de toutes mes invitées, t'es celle qui a le plus préparé.
Oh merde.
Alors, écoute, celle qui a eu le moins de délai.
Voilà, alors que je l'ai appris hier. Très bien. C'est exactement mon move. Je prépare énormément les choses.
On va parler de ça. C'est fascinant.
Allez, je vais faire mon intro en live. À chaque fois, je stresse de ouf parce que je passe à des meufs que je connais pas, j'ai jamais vu, je leur ai jamais parlé. Et je vais devoir leur poser des questions intimes et ça me stresse de ouf.
Je suis dans le même niveau de stress.
Mais au moins, on se connaît.
Oui, alors qu'on a passé des soirées ensemble.
Voilà, on travaille ensemble, on fait des soirées ensemble. Donc, ouais. Je me sens un peu plus détendue pour tenter de faire mon intro en live. Bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. J'ai lancé ce podcast parce que je voulais donner la parole à plein de meufs, de jeunes femmes, de femmes moins jeunes, que j'aurais aimé avoir sous les yeux en grandissant. Et alors au départ c'était un prétexte pour rencontrer des modèles féminins inaccessibles dans mon quotidien. Et finalement très très vite je me suis rendu compte que j'avais plein de modèles féminins beaucoup plus proches de moi, autour de moi, que j'en rencontrais régulièrement, qui n'étaient pas forcément des stars, qui feraient pas la une des journaux et qui mériteraient pourtant d'être en une des journaux. Et tu fais totalement partie de cette catégorie, Marie Camier.
Je suis tellement flattée par cette présentation. C'est fou.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. On se connaît car on travaille ensemble. Les lectrices de Mademoiselle, celles qui sont déjà venues à une grosse stuff, celles qui sont déjà venues à un cinémade, celles qui sont déjà venues à
un one-man show,
j'allais dire aussi un vide dressing.
Oui, oula.
si vous êtes déjà venue à un événement à Paris, vous avez déjà pu rencontrer Marie Camier. Et également, tu as cofondé l'association Les Internets, qui en ce moment est un peu dans l'actualité, et on va en parler aussi. Et surtout, donc, la raison pour laquelle je voulais absolument qu'on fasse un épisode ensemble, toi et moi, c'est parce que je te décrirais comme toujours une petite fille sage, mais qui arrive à déplacer des montagnes. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps de discuter de ton parcours et de ta philosophie, de ta psychologie aussi, parce que je me reconnais beaucoup plus dans un modèle comme toi que dans des modèles de meufs qui finalement envoient à bouler plein de choses, plein de codes, plein de règles. J'ai l'impression que ça me demande trop de force et d'énergie. Ouais. Et je vois en toi beaucoup de force et d'énergie sans forcément mener des batailles qui valent pas le coup d'être menées.
J'ai l'impression que je suis une petite fille sage qui essaie d'être moins sage.
Ouais, mais comme nous toutes, j'ai l'impression.
Ouais, ouais.
C'est un process, quoi. C'est un process. Mais alors justement, si tu écoutes ce podcast, tu sais que la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans?
Alors j'ai très peu de souvenirs d'enfance, mais je sais que mes maîtresses à l'époque,
ouais,
me considéraient comme la petite fille très discrète qui se tapait parfois des fous rires dans la classe sans que personne comprenne pourquoi.
C'est vrai?
Oui. J'étais très timide et assez peu sociable en réalité, j'étais entourée par seulement quelques amis. Et j'allais pas naturellement vers les gens. C'était très compliqué pour moi. Je me retrouvais pas forcément dans les préoccupations des enfants de mon âge. Donc c'était un peu compliqué pour moi de connecter avec eux.
Et t'avais l'impression que c'était quoi les préoccupations des enfants de ton âge ?
Les petites filles étaient... Parce que forcément, j'étais orientée... Enfin, on m'orientait un peu vers les petites filles. Et les petites filles, j'avais du mal à connecter avec elles parce que... En fait, c'était souvent des filles qui jouaient aux poupées ou à se faire belle dans la cour de récré ou à la corde à sauter. Et moi, j'avais plutôt envie de faire du foot avec les garçons. Ce que je faisais souvent d'ailleurs à l'étude quand ma mère m'y laissait le soir. Et comme j'étais dans un tout petit village, en fait, c'était le genre d'endroit où tu jouais au foot avec les maîtres et les maîtresses, quoi. Et du coup, je pense que j'étais plutôt la bonne élève du devant de la classe qui lève la main. Pas Hermione Granger, pas un sup de Madame Je sais tout.
Alors, j'en dis parce que.
Ok, on sait qu'elle s'est calmée au fil du temps.
Et surtout, moi j'étais très Hermione Granger, mais vraiment. Par rapport au jeu des petites filles, t'as un physique de Barbie. Tu devais être la parfaite petite poupée quand t'étais petite.
Je sais qu'on me touchait les cheveux quand j'étais gamine, ce qui est un peu problématique quand j'y réfléchis aujourd'hui.
T'as les cheveux blonds, ouais. Fins, les yeux clairs.
Ouais, mais j'étais aussi une petite fille pas à l'aise dans son corps. J'ai eu des grands pieds très vite. Ma mère m'appelait Berthaud Grand Pied et en fait, elle m'a foutu un complexe là-dessus alors que c'était une blague au départ. Mais c'est le genre de blague que les parents font sans trop se rendre compte que, en fait, à répétition, ça peut devenir un complexe. Et comme j'étais pas très préoccupée par la façon dont je m'habillais et j'étais pas très intéressée par les questions de marques, porter des marques ou des trucs comme ça, en fait, entre mon enfance et mon adolescence, j'étais pas forcément en phase avec mon corps. Et encore aujourd'hui, je pense que je le paye un peu. Et que je suis en train de... Enfin, tout le travail, je fais un travail là-dessus en ce moment. Je reviens de super loin.
En grandissant, parce que là on était à l'école primaire, en grandissant à travers le collège, lycée, comment tu te sentais à l'école ? C'est un endroit que t'aimais bien ?
Le collège, au début, j'aimais bien, jusqu'à ce que je me fasse bolos. à peu près jusqu'à la fin du collège, en fait. Entre la 6e et la 4e, j'avais pas d'amis. J'avais beaucoup de mal à... En fait, quand je suis arrivée au collège, les deux premiers trimestres, j'avais 18 de moyenne et j'étais cette fille qui se mettait effectivement sur le devant de la classe et qui avait envie d'apprendre plein de trucs et de discuter avec les profs parce que c'était trop stimulant. Sauf que j'étais dans un collège difficile et on m'a très vite fait comprendre que si je continuais à être la bonne élève, j'arriverais jamais à m'intégrer. Donc j'ai dû me standardiser et... Me standardiser, ça voulait dire me mettre au niveau des autres. Et le niveau des autres, il était quand même pas très intéressant, donc ça me permettait pas non plus de me faire des copains. Et c'est seulement à partir de la 4e que j'ai rencontré une vraie amie, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. On a pris des chemins totalement opposés dans nos vies, donc c'est trop marrant de voir qu'on est toujours amis, mais c'était quand même très fort et c'était mon bodyguard. Et du coup, les gens qui me bolossaient, elles les tapaient.
Genre physiquement, c'était quelqu'un qui
physiquement, mais parce que eux aussi me violentaient. Enfin, c'était des chewing-gums dans les cheveux, dans la queue de la cantine, ou alors on me tirait les cheveux, on me les brûlait également. Je sais pas pourquoi c'était très très axé sur mes cheveux, le harcèlement scolaire et le collège était. Les profs et le collège, ils n'ont pas du tout pris la mesure du problème. Et quand ma mère m'a vu rentrer à plusieurs reprises vraiment pas bien et a vu mes résultats scolaires baisser, elle a pris rendez-vous au collège et il n'y a pas eu de mesures qui ont été mises en place. Donc finalement, je me suis juste dit que ça allait être un moment désagréable à passer. Et c'est pour ça qu'au lycée, pour moi, ça a été une libération parce que au lycée, j'ai pu exprimer ma vraie personnalité et trouver qui j'avais vraiment envie d'être. Alors qu'au collège, j'ai été obligée de me fondre dans le moule et un moule qui me plaisait pas.
Et ça marchait pas surtout.
Ça marchait pas, c'était pas moi. Et en plus, j'ai eu de l'acné à peu près à la fin au début de la 5e. Et ça m'a énormément complexée. Pendant très très longtemps, j'ai pas réussi à m'en débarrasser avant la seconde. Et donc j'arrivais pas à avoir, j'ai pas eu de copain avant la seconde. Et je pense que aussi, ça influe beaucoup sur la confiance que tu as en ta personne. Je pense que ça influe sur ce que tu renvoies aux autres aussi. Et forcément, je pouvais pas m'empêcher de me demander, mais est-ce que je suis normale? Pourquoi est-ce que j'ai pas les groupes d'amis comme les autres? Pourquoi est-ce que j'ai pas mon premier copain? Enfin, et comment on fait tout ça en fait? Comment on fait pour avoir un copain? Je pense que c'était une période très particulière, mais en même temps je la regrette pas parce que je me suis tellement renforcée. Si j'avais été mise dans un collège privé comme la majorité de mes copains qui venaient de l'école primaire du coin, qui ont été mis en école privée quasiment une semaine après la rentrée parce que le collège était vraiment trop difficile, j'aurais pas du tout eu le même parcours. Et c'est parce que j'ai dû un moment me battre et m'adapter pour essayer de survivre dans cet environnement hostile que je me suis construite telle que je suis aujourd'hui, je pense.
Alors justement, j'aimerais qu'on décortique un peu ça. À quel moment tu dirais que tu as commencé à réagir, tu vois, de sortir, de observer et subir pour prendre des décisions, des actions? Et je vais compléter ma question. Est-ce que t'as d'abord parlé ou d'abord agi?
Je parlais beaucoup. Et le pire, c'est que je prenais plutôt la défense des autres avant de prendre ma propre défense. Je me souviens d'un épisode comme ça. Il y avait un gamin de mon village qui était dans le même collège que moi, dont le père était très pauvre. Et il vivait avec le recul, je me rends compte aujourd'hui qu'il vivait en grande précarité. Et donc c'était le genre de personne qui n'avait pas d'amis au collège. Et pendant la récré, une fois, je l'ai vu à l'autre bout de la cour en train de se faire taper par des plus grands. Et alors que moi-même, je me faisais bolosser par ces mêmes personnes, je suis allée le défendre. Alors que vraiment, j'avais zéro biscotto, 35 kilos tout mouillé. La petite blonde qui arrive, qui se fait pas respecter, qui fait pas partie des populaires, qui aurait jamais été déléguée de classe. En fait, je suis allée défendre ce mec-là, alors que moi-même, j'avais beaucoup de mal à me défendre toute seule. Et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte du rapport que j'avais aux autres et de la responsabilité que j'avais vis-à-vis des autres et de leur bien-être et de l'impact que je pouvais avoir aussi dans la vie des autres. Et aujourd'hui, mon travail, il est un petit peu inverse. C'est comment je me remets au centre de ma vie. Comment est-ce que je fais en sorte que je sois moi aussi, enfin aussi exigeante dans ma propre vie que j'ai pu l'être dans celle des autres. Et je fais un peu le travail inverse, c'est marrant.
Je me reconnais totalement dans ce que tu racontes sur c'est plus facile de défendre les autres que de se défendre soi-même.
Ouais.
Et c'est tellement difficile quand t'as passé ta vie à faire ça. Alors moi j'ai 30 ans, toi t'as un peu moins.
28.
28. À ce moment-là, après, à 28 ans, de se dire, ok, où est ma place dans, ouais, où est ma place dans ma vie? Comment tu arrives, comment tu travailles là-dessus? Ou plutôt en première étape, d'où tu penses que ça nous vient de travailler en premier sur défendre les autres plutôt que de se faire une place dans sa propre vie?
Je pense que de toute façon, dans la société, quand on est une femme, on est élevé dans cette idée qu'il faut prendre soin des autres. Hein. Donc clairement, si on se retrouve dans les métiers du care, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on nous y dirige, on nous apprend à être les infirmières de tout le monde, finalement. Et d'ailleurs, j'ai eu le syndrome de l'infirmière avec quasiment tous mes copains.
Alors, le syndrome de l'infirmière, expliquez-moi.
Ouais, le fait d'avoir l'impression que tu... Alors, c'est le fait de se mettre avec quelqu'un et de se dire, en fait, je vais l'aider à mener sa vie, à sortir des soucis. C'est le syndrome de l'assistante sociale aussi. Mais dans mon cas, je pense que c'est encore plus... Enfin, c'est peut-être un petit peu particulier parce que ma mère est assistante sociale. Et on a eu une histoire familiale un peu compliquée qui nous a beaucoup rapprochés. Et elle a très vite joué le rôle de modèle dans ma vie. Et donc, quand je la voyais, elle, prendre soin des autres, j'avais moi aussi envie de ça m'inspirait l'envie de prendre moi aussi soin des autres de la même façon, parce qu'elle me racontait comment des gens lui rapportaient des fleurs ou des boîtes de chocolat parce qu'elle les avait aidés à sortir de la dette, parce qu'elle les voyait reprendre confiance en eux. Et je me disais, mais c'est formidable, ça, c'est donc ça le sens de la vie. C'est génial quand tu peux aider des gens à ce point-là et avoir un impact aussi important. Et je pense que ça vient de là. Moi, mes rôles modèles, ils n'étaient pas aussi éloignés qu'une Emma Watson ou une Beyoncé. En fait, j'avais ce rôle modèle devant les yeux depuis le début, mais après, j'ai dû le dépasser aussi. Parce qu'il y a un moment où on grandit et quand on devient adulte, on se rend compte que les rôles modèles ont leurs limites et parfois, on peut les dépasser.
Alors, c'est quoi, par exemple, les limites que tu as dû dépasser ?
Je me suis rendu compte en grandissant, en élargissant mes centres d'intérêt, en discutant avec des gens très différents de moi, en étant pote au lycée avec... J'avais un groupe de potes au lycée qui étaient dans le journal, parce que je faisais partie du journal du lycée, et c'était des personnes super exubérantes, très libérées, et notamment j'avais deux potes gays. Et j'avais jamais parlé avec ma mère de personnes qui étaient homosexuelles. Et du coup, quand moi je suis arrivée avec des idées un peu plus avancées sur la question et un peu plus progressistes, j'ai vu les limites de mon rôle modèle parce qu'elle n'avait pas été confrontée aux mêmes problématiques dans sa vie que moi. Et je ne sais pas si je raconte une... Enfin, dis-moi si je suis trop longue... Yes. Est-ce que je viens de faire un truc de bon élève ou
insupportable? Même je suis en train de boire ses paroles. Elle s'interrompt, dis-moi que je suis trop longue. Mais dis-moi si j'ai l'air pas intéressée.
Non, c'est pas du tout ça. J'ai toujours l'impression de trop parler et de raconter ma vie.
Alors, le principe d'un podcast, c'est qu'il faut parler. Et okay. T'es invitée pour raconter ta vie, donc double check.
Ok. Je me souviens d'une fois notamment qui m'a marquée, et c'est peut-être la fois où j'ai compris que j'avais dépassé ce rôle modèle, c'est... Mon frère, quand il était plus jeune, et notamment quand il était au lycée à peu près, on était surprise parce qu'il ne nous avait jamais présenté une de ses copines. Et on en parlait avec ma mère et son amie en se disant peut-être qu'il ne veut pas nous présenter de fille. Et puis moi, j'avais sorti peut-être qu'il est avec un garçon et qu'il n'a pas envie de nous le présenter. Et ma mère a blémi en fait quand j'ai dit ça parce que elle m'a dit vraiment ça me ferait rien mais je serais malheureuse pour lui hein, quand même. Et je lui dis pourquoi tu serais malheureuse pour lui? Parce que sa vie elle serait pas facile hein. Et j'étais tellement dans une logique ou alors on peut essayer de faire en sorte que sa vie soit plus facile en acceptant ça, en acceptant que c'est une possibilité comme une autre, que ça peut être une norme comme une autre, et que ça ne posera absolument aucun problème, et qu'au contraire, si jamais il est confronté à des difficultés, nous on sera là pour le soutenir, quoi. Et là, j'ai vraiment vu la limite à ce moment-là.
Ok, je comprends ce que tu veux dire, et encore une fois, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. Et je pense aussi qu'on manque de rôle modèle. Je pense qu'on manque de rôle modèle et que c'est plus facile quelque part de dépasser celui de nos parents.
Ouais.
Parce que c'est, y a un côté... Finalement, je trouve que ça m'a aidé en fait, de voir les limites de mes parents, de me dire « Ah, il va falloir que je m'en trouve d'autres, donc je vais chercher.
» Ouais, de ouf. Après, moi, j'ai des rôles modèles aujourd'hui. En fait, je crois que je ne conçois pas le rôle modèle comme une sorte d'entité parfaite et unique, mais plutôt comme des petites choses que je vais piocher chez les unes et les autres. Et d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des rôles modèles féminins que j'ai en tête, mais j'admire la confiance d'Emma Watson, j'admire, et son parcours, j'admire... l'humour de Shirley Soignon et la façon dont elle arrive à tenir une salle. Je t'admire, toi.
Mais arrête.
La façon dont tu gères la rédac de Mademoiselle. Mais tous les jours, je suis là. Putain, la meuf, elle est tellement un niveau de ouf. gérer tout ça. Ça me sidère, tu vois. Et je prends chez chacune des petites choses et je construis une sorte de patchwork de rôle modèle. C'est mon Frankenstein à moi.
C'est cool, c'est une bonne technique. Mais je fais pareil et je te retourne le compliment sur... Donc, tu as fondé une association, Les Internets, qui a pour but de promouvoir les créatrices de vidéos, alors notamment les youtubeuses. Mais j'imagine que vous discrimineriez pas si elles ne diffusent pas leurs vidéos sur YouTube. Et tout ça, ça partait d'un constat. Ça m'a vraiment... Je te parle de ça parce que ça m'a vraiment épatée. J'étais à ce moment-là chez Mademoiselle et... on faisait le constat de « Ah, c'est relou, il n'y a vraiment que des mecs sur YouTube. On ne voit que des mecs sur YouTube. » En fait, toi, tu arrives et tu fais « Eh ben, on va faire une association et on va faire ce qui manque. » C'est-à-dire, il manque quelque chose, quelqu'un pour pousser les femmes qui font de la création vidéo sur YouTube. Eh ben, let's go, on fait une association. J'aimerais vraiment réussir à comprendre, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi ton moteur, ton déclic pour passer de constat, action?
J'ai une sorte de boule de feu dans le ventre. Je supporte pas les injustices, j'ai jamais supporté ça. C'est aussi ça qui a été compliqué à gérer quand j'étais enfant et ado, c'est que je pointais les injustices et tout le monde était là. Mais laisse tomber, c'est plus gros que toi, t'y peux rien,
c'est
t'y
comme
peux
ça.
Rien changer, c'est comme ça. Et cette attitude fataliste, elle me mettait en colère. Et je pense que c'est cette colère-là qui me donne la niaque à un moment de faire les choses. Mais j'ai déjà cette boule dans le ventre. L'autre truc c'est, qui me drive en ce moment et qui a été un déclic justement pour lancer la campagne Mon Corps sur YouTube, ça a été... en fait, si je le fais pas, personne va le faire. Et autant j'aime pas faire les choses à la place des autres, autant quand personne... n'a envie de le faire, ça me dérange pas de combler les trous. Et je pense que ce sont ces deux ingrédients-là qui font qu'à un moment, j'arrive à lancer la dynamique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je fais une auto-psychanalyse à ce moment-là. Je me suis posé la question justement en préparant l'entretien avec toi. Je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a poussée à un moment? Je crois que ouais, c'est ça, la niaque.
Quand tu me décris le lancement de Mon Corps sur YouTube, tu dis « combler les trous ».
Ouais.
C'est marrant quand tu le décris comme quelque chose de par défaut, et pas comme quelque chose de vers l'avant, tu vois, un acte conquérant.
Ouais, c'est vrai. J'ai du mal à me voir comme une warrior, ou comme une guerrière. J'arrive pas à prendre cette place-là. Je pense que c'est aussi pour ça que je me définis pas comme une leaduse, quelqu'un qui va... amener les gens vers quelque chose plutôt comme une coordinatrice. Et c'est assez peu flatteur pour moi. Je pense qu'il y a un côté un peu dépréciatif là-dedans. Peut-être que c'est parce que l'image de leader me fait peur aussi. Et pourtant, ces responsabilités-là, je les ai. C'est qu'une question de lexique, mais j'ai du mal à me considérer comme ça. Je ne sais pas si c'est une sorte d'humilité ou de... Je suis en psychanalyse. Pourquoi je me définis pas comme une guerrière? Pourtant, j'ai l'impression de mener des combats, de mener des luttes.
Mais alors, déjà, de ouf, tu mènes des combats et de ouf, t'es dans la lutte. Et je pense qu'il manque. Je pense que c'est difficile de se définir soi-même comme une warrior, une guerrière, comme tu dis. Encore une fois, avoir le manque de diversité dans les représentations de femmes à ces postes-là. Il y a une scène de Kill Bill 2, je pense, qui m'avait beaucoup marqué. C'est Lucy Liu qui joue la méchante asiatique là. Et puis elle mène un meeting, je sais pas quoi. Il y en a un qui fait une remarque, elle se lève, elle le décapite, elle revient à table. Et elle était face à, je sais pas, une dizaine de mecs, tu vois. Elle fait d'autres remarques, d'autres commentaires. Et oui, c'était un peu la caricature. Donc la scène, elle est extrêmement violente, mais c'est dans l'esprit du film. Mais c'était une caricature qui collait parfaitement au stéréotype d'une femme de pouvoir, c'est cette image-là, quoi. Elle est impitoyable. Il y a zéro place pour l'empathie, pour l'émotion. Il y a zéro place pour la discussion et l'écoute. Parce qu'en fait, s'il y a une place pour ça, c'est elle qui va se faire décapiter.
Ouais.
Et tu le sens dans cette salle-là, dans cette scène-là. C'est des patrons de mafia japonaise, japonaise, chinoise, enfin toutes les... Il y a plusieurs clans autour de la table. Et tu sens bien que si elle se laisse marcher sur un millimètre d'orteil par un des mecs, c'est tout, quoi. C'est tout ou rien. Il la respecte ou il la respecte pas. Et elle n'aura pas un juste... Elle n'aura pas le droit à un milieu, elle n'aura pas le droit à l'erreur... Voilà quoi, comme dans beaucoup d'histoires de clans de mafia, pour le coup c'est pas très genré, ça marche aussi avec les mecs, ce que la mafia fait peu dans la diplomatie, mais n'empêche que ça colle avec ce stéréotype que j'avais de la femme de pouvoir, et bah ouais, après j'ai Xena la guerrière, on n'est pas sur des modèles, enfin c'est pas des modèles féminins auxquels j'arrive à m'identifier avec mon 1m60 et comme tu disais, 35 kilos tout mouillé en grandissant quoi.
Je pense qu'on a le même problème de représentation avec l'image qu'on a des femmes chefs d'entreprise, par exemple, qui arrivent à se faire une place dans des milieux qui sont d'ordinaire très masculins. On a l'impression que pour arriver là, elles ont décapité des têtes, justement, et qu'une fois qu'elles y sont, elles lâchent pas la place, mon gars, parce qu'elles ont tellement galéré. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un problème de... sur le mentorat féminin en France, c'est que il y a plein de meufs qui pourraient aider d'autres jeunes meufs à monter plus vite, plus haut, dans plein de sphères, mais en fait elles en chient tellement pour arriver là où elles en sont que elles n'ont pas le temps d'accompagner des jeunes femmes. Et moi je pense que c'est un modèle, c'est un modèle de mentorat qui manque aussi et qui pose des questions de représentation. C'est pas évident, mais c'est vrai que je suis pas. Mais même tu vois, physiquement, je pense pas que je dégage un truc de guerrière.
Alors, on va dire, on enregistre ce podcast, on est mardi 5 juin.
Ouais.
Lundi 4 juin, on a fait une réunion mensuelle, on en fait donc tous les mois à la rédac, c'est le principe d'une réunion mensuelle. T'as fait un speech, meuf, j'avais les poils. Vraiment. Donc, je dégage pas physiquement, vraiment, il y a 24 heures, t'as fait la démonstration du contraire. Donc c'est toi qui penses que tu dégages pas physiquement un leadership, mais quand tu te lèves en réunion et que tu prends la parole pour défendre une idée... Je t'avais jamais entendu parler du projet des box mademoiselle que tu gères avec autant de passion. Et ouais, vraiment, je pense que j'ai aussi douté à un moment donné sur la viabilité du projet, la pertinence, plein de choses. Mais tu m'as redonné 25 points d'énergie hier. Vraiment.
J'ai écouté un super TED.
Balance. Balance tout secret.
J'aime beaucoup écouter la... TED Radio Hour de la NPR,
ouais.
Qui est disponible en podcast. Et il y en a un qui s'appelle Inspire to Action. Donc,
qui est très récent.
Qui est hyper récent, mais qui est magique parce qu'il y a 4 TED dans lesquels les intervenants vont décortiquer ce qui permet à un moment dans une cause de la faire percer ou non. Et dans toute cause, il y a souvent des leaders qui sont charismatiques. Bah, celui auquel on se réfère le plus souvent, c'est Martin Luther King. Et il y a un des intervenants, justement, qui décortique le speech de Martin Luther King, le fameux speech qui a transcendé les foules. Et ça m'a passionné, ce TED. Je pense qu'il faut l'écouter une fois dans sa vie pour comprendre déjà comment... pourquoi est-ce qu'on est plus emporté par certains discours, au-delà de... du simple décortiquage rhétorique chiant qu'on peut nous apprendre à faire à la fac avec... Alors là, il utilise telle figure d'argumentation. Tout le monde s'en fout, en fait, il y a un moment. Ce que le mec dit dans le TED, c'est que la différence entre tous les discours et celui de Martin Luther King et ce qui a fait changer les choses, c'est que c'était un leader qui était... Les gens ne suivaient pas le leader, mais ils suivaient la cause portée par le leader.
Sa vision.
Sa vision. Et cette vision, elle est positive. C'est pas une vision plaintive. Alors attention, je suis loin de dire qu'en France ou je sais pas quoi, on aurait une vision militante un petit peu plaintive ou négative. Je dis pas du tout ça. Mais je pense que, en termes de... Quand on mène une cause, on peut la présenter de plusieurs façons pour emmener les foules avec nous et pour moi. Et c'est ce qui m'a convaincue de faire en sorte que les intérêts soient une initiative positive. Je pense que on a beaucoup plus de poids quand on fait rêver les gens de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et donc, hier, à mon échelle, j'ai fait une Martin Luther King sur les box Mademoiselle. Tout comme il y a une semaine et demie, j'ai fait une Martin Luther King sur, avec mon corps sur YouTube. Et je pense que c'est juste génial. Je parlais de rôle modèle, mais en fait, ce mec est un super rôle modèle. C'est sûr, je ne suis pas en train de défendre les droits civiques aux États-Unis. c'est une cause qui est tellement incroyable. Et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour Martin Luther King et son entourage, parce que le mec n'était pas tout seul. Et je pense que ça aussi, c'est un truc super important. C'est qui t'entoure dans ta cause. Mais je commence à m'approprier ça pour amener plus efficacement les causes là où j'ai envie de les amener. Et je sais pas si c'est de la manipulation de masse.
Je pense pas. En fait, je pense pas que c'est de la manipulation. Je pense que c'est de partager une vision, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui explique ce TED Talk. C'est que ce qui marche, ce qui fait qu'une cause marche ou non, c'est est-ce qu'il y a une vision qui va avec. Parce que, tu vois, c'est faire aller manifester pour ou contre quelque chose, c'est très réducteur. Et partager un projet de société ou une vision de l'avenir, ça, c'est très fédérateur. C'est une critique qui avait été faite au projet présidentiel pendant la campagne en 2017. Mmh. Et c'était pas du tout surprenant que le PS et les Républicains soient largués, parce qu'ils n'avaient pas de projet. Mmh. Alors que ce soit France Insoumise ou En Marche, ou même le Front National, et même si leur projet me donne des frissons, au moins ils en ont un. Ils défendent une vision de la société, et c'est ça qui provoque l'adhésion ou le rejet, effectivement. Et plus ta cause elle est fédératrice, plus ta vision elle est fédératrice, et plus elle va générer d'adhésion, évidemment.
Ouais, c'est exactement ça.
Revenons un peu à toi et à ton parcours. Donc le principe de cet entretien, c'est que tu choisis des questions à partir d'une liste que je t'ai envoyée parmi les questions que tu m'as isolées. Tu as mis la première fois que tu as défendu ton avis. C'était quand ? C'était quoi ?
Alors, je pense que je l'ai défendu bien plus jeune que ça, mais la fois dont je me souviens, c'était au journal du lycée. J'y suis rentrée quand j'avais 15 ans. Et depuis que j'avais, je sais pas, 9-10 ans, je m'étais dit, en fait, je crois que j'ai envie de devenir journaliste plus tard. J'ai envie de comprendre le monde, de le raconter et peut-être aussi d'en transmettre une certaine vision. Enfin, j'ai l'impression que je fais le lien avec mes sensibilités comme ça. Et quand je suis rentrée dans le journal du lycée, c'était pas évident parce que c'était un journal qui était très engagé. On avait gagné des prix au niveau national et on était considéré comme le journal le plus impertinent, journal lycéen le plus impertinent de France. On faisait des couvertures avec Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, mais qui étaient des caricatures. On mettait des mots vulgaires sur les unes. On s'empêchait pas du tout d'écrire putain, chatte, bite dans le journal. Et c'était assez révolutionnaire parce que tous les autres journaux lycéens qui faisaient ça se faisaient censurer, tout bonnement. Mais nous, on avait la responsabilité éditoriale du journal. C'était pas le proviseur qui avait le dernier mot, c'était nous, les élèves. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on avait une liberté d'expression qui était absolument dingue. Et en même temps, on avait cette responsabilité de... En fait, si quelqu'un dérape, c'est nous qui prenons. Donc ça m'a fait grandir d'un coup de rentrer dans le journal du lycée, non seulement parce que j'y ai rencontré des personnes complètement dingues.
Qui était directeur de publication
À partir de la première, ça a été moi.
D'accord, parce que directeur de publication, c'est celui qui va en prison, on est d'accord.
Oui,
c'est...
tout à fait.
Okay, d'accord, très
J'aurais bien. Pu aller en prison pour diffamation à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy.
Excellent.
Ça aurait été génial.
J'espère que tu as mis ça sur ton CV, car c'est fat.
C'est le titre de mon CV, et je le mettrai sur mon épitaphe également. Non, on était hardcore.
Je rigole parce que c'était ma condition pour devenir rédac chef. Hein. J'avais dit à Fab, on est d'accord que j'ai pas le poste qui va en prison.
Yes.
Et c'est notre petit running gag à la rédac, quand on hésite sur un sujet, on fait bon, la limite, c'est on essaie de pas envoyer femmes en prison, s'il vous plaît.
Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais nous, ça a été une question. Puis en fait, on était toujours borderline parce qu'on parlait de. On écrivait sur la politique dans le journal et on était très critiques. On se retrouvait pas nécessairement dans un parti et on a couvert la présidentielle de 2007 sans pouvoir voter. Et moi, ça me foutait d'autant plus le seum que j'avais 17 ans. Et j'avais beaucoup plus de conscience politique à l'époque que la majorité de mon entourage qui pouvait voter. Et c'est dans ces cadres-là que j'ai eu des idées à défendre qui étaient vraiment super tendues parce que ça demandait de se renseigner énormément. Fallait arriver avec des bases argumentaires solides pour dire bah si, en fait, ce papier-là, on va le publier parce qu'il est important, parce qu'on a envie d'intéresser les lycéens à ce sujet-là. Et même s'ils nous disent qu'ils en ont rien à foutre de la présidentielle, on va continuer à écrire là-dessus en étant impertinent, en mettant des blagues dedans, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va réussir à les intéresser. J'ai essayé de me souvenir, mais j'ai pas de souvenir super précis d'un sujet qui aurait été tendu. On avait une rubrique Dr Love qui était vraiment hardcore. On parlait de sexualité, mais de façon super décomplexée, à base de on faisait des faux témoignages de mon copain m'a menotté au radiateur depuis 3 jours, je suis nue, est-ce que quelqu'un peut m'apporter à manger? Et donc Dr Love répondait en disant attention, lorsque tu pratiques le BDSM. On écrivait ça pour des lycéens qui avaient entre 15 et 18 ans et le proviseur laissait ça. Et ouais, forcément, il y a plein de moments où on s'est posé la question de est-ce que ça, on le publie ou pas, et où il fallait vraiment il y avait deux trucs, il fallait avoir les bons arguments pour shifter et trouver des alliés qui soutiennent l'idée que tu défendais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pas mal développé ça.
Est-ce que ça t'est arrivé pendant les années lycée que des élèves viennent te voir en disant c'est toi qui fais partie du journal, c'est quoi ce truc-là, et qui te confrontent sur des choses que t'as...
De ouf, notamment sur les questions politiques. Alors, est-ce que c'était sur quoi que j'avais écrit? Ça avait fait une shitstorm s'il y avait eu Twitter à l'époque.
T'es plus mal.
Je te raconte pas. Non mais vraiment, j'ai gardé les journaux et de temps en temps, je les rouvre et je me dis « Oh putain, j'aurais pu aller en prison vraiment pour ça, ça, ça et ça. » Vraiment, il y avait de la diffamation et tout. Donc ne faites pas ça chez vous. Mais sur le coup, c'était très marrant. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir des... J'étais dans une classe qui... où on était plusieurs à être dans le journal du lycée parce que j'étais en première littéraire, terminale littéraire, et on va pas se mentir, en fait, quand on est en littéraire, on a un certain goût pour l'écriture, souvent.
C'est mieux.
Ça aide, en tout cas. Et donc, dans notre classe, les rédacteurs avaient soutenu mon article, mais le reste de la classe s'était retourné contre moi, et c'était, je crois, un article sur les... la façon, je crois que c'était quand Sarkozy est allé dans les banlieues.
Ah, descend.
Et le fameux Karcher, en fait.
Ah oui, ok.
L'incident du Karcher. Et j'en avais fait une chronique humoristique. Et on m'avait dit, c'est pas drôle. On n'a pas le droit de rigoler de ça.
Ah.
Voilà. Twitter avant l'heure.
Ah oui, oula.
Et d'ailleurs, ça m'a mis vachement de filtre, je pense, de me prendre ce retour-là de bah, « en fait, c'est vrai, est-ce que c'est pas drôle? Est-ce qu'il y a que moi qui rigole de ça ?» Et j'avais eu le soutien de toute la rédac derrière moi sur ce sujet, parce qu'on s'était dit qu'il valait mieux le traiter de façon humoristique pour créer du débat au sein du lycée sur cette question, plutôt que de ne pas le traiter parce que... On va pas se mentir, à l'époque, on n'avait pas les épaules pour faire un sujet de fond sur la vision de Nicolas Sarkozy de l'immigration et des banlieues, quoi. Et ça avait, j'avais pas eu de dérapage, j'ai jamais eu de dérapage raciste ou quoi que ce soit. Hein,
oui, qu'on soit bien clair, quand tu dis que tu as fait un article humoristique, c'est que tu te moquais pas des gens qui vivent dans les banlieues.
Non, bien sûr que non.
Tu te moquais de la condescendance de Sarkozy vis-à-vis de ces gens.
Exactement. Oui, oui, je ne suis pas raciste, et si d'ailleurs je dis des choses racistes, dites-le moi.
Était-ce trop priori, subtil peut-être pour
je pense que c'était.
Un...
Eh ben, en fait, j'ai la police du second degré qui m'est tombée dessus.
Ah d'accord.
Et faudrait que je retrouve tiens, cet article.
S'il te plaît, j'ai très envie de le lire.
Ouais. Je le retrouverai.
Ok, donc dès 2007, on ne peut pas rire de tout.
On ne peut pas rire de tout, clairement, des proches.
Et pourtant, c'était l'âge d'or des guignols de l'info.
Complètement. Qui étaient nos inspirations aussi. Hein.
Et le Canard Enchaîné aussi.
Le Canard Enchaîné et Charlie Hebdo.
Et les rebelles.
Charb, j'avais rencontré Charb en 2006. Et c'était à l'époque, pour moi, une inspiration de liberté, ce gars. Parce que... Il faisait des caricatures qui étaient impertinentes. Aujourd'hui, j'ai pas le même regard dessus parce que la société a évolué aussi sur ses méthodes d'expression. Mais puis il y a eu les événements qu'on a connus. Mais j'avais été très marquée par ma rencontre avec lui parce que il y avait il dégageait un sentiment de liberté et de je m'en foutisme qui était vraiment super puissant. Et ce côté borderline, tout le temps être sur le fil, me passionnait. Et je cherchais tout le temps cette limite-là. Donc il y avait beaucoup d'humour noir, beaucoup de second degré. Je ne sais pas où est passée la Marie qui faisait ça. Je pense qu'elle elle s'est vraiment faite... j'ai grandi en fait. J'ai grandi, j'ai compris que certaines blagues n'étaient pas, ne faisait rire que moi, parce qu'en fait elle ne me concernait pas, elle ne me touchait pas, et donc j'ai arrêté de les faire. J'ai changé de vocabulaire. J'ai arrêté de blaguer sur l'homosexualité, alors qu'à l'époque on ne blaguait que là-dessus parce que deux de mes meilleurs potes étaient gays, et en fait c'était nos blagues du quotidien, sauf qu'aujourd'hui en fait j'en ai une autre vision, quoi. J'ai un peu évolué là-dessus, mais je me suis mise beaucoup de filtres en fait depuis cette époque.
Je reviens à la liberté dont tu parlais. Il y a une question que tu ne m'as pas isolée, mais je vais te la poser quand même. C'est quand la première fois que tu as désobéi ?
Je ne suis pas sûre d'avoir déjà désobéi. Alors, quand est-ce que
mais pourquoi ?
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu envie de désobéir ?
En fait, ouais, je n'aime pas défier l'autorité. J'aime pas aller au conflit, ce qui peut paraître surprenant vu ce que je fais. Oh, YouTube. J'aime pas la meuf qui dit « J'aime pas aller au conflit alors qu'on clash YouTube depuis deux semaines, parfait.
» Je te laisse finir et après je vais pointer tes paradoxes, t'inquiète.
Je suis pleine de paradoxes, pas de soucis, je le sais. Je suis pas sûre d'avoir... Alors, est-ce que j'ai déjà désobéi ?
Je pose la question dans l'autre sens. Est-ce que tu as déjà été frustrée de devoir respecter une règle, une consigne ?
En fait, quand j'ai... je ne sais pas si c'est de la désobéissance, mais c'est plutôt une frustration. C'est que quand j'étais petite, on me demandait... Je demandais tout le temps pourquoi. Pourquoi si, pourquoi ça ? Pourquoi j'ai pas le droit de voter alors que j'ai une conscience politique ?
Parce que t'as pas 18 ans. Mais pourquoi il faut 18 ans pour voter ?
Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et ça a été vraiment une grande frustration. Pourquoi je peux pas faire ça ? Parce que t'es pas une adulte, tu peux pas faire ça. Ah, ok. Bah c'est nul. Mais c'était surtout autour des questions de liberté d'expression, je pense. Pourquoi j'ai pas le droit de... Ah si, ça y est, j'ai. Ma mère m'a élevée en me disant toujours « Dis pas de gros mots, c'est pas joli. » Et elle voulait pas qu'on regarde les Simpsons avec mon frère, parce qu'il y avait des gros mots.
Alors, c'est vulgaire, les Simpsons.
Quand j'ai découvert South Park, laisse tomber. Et je pense qu'elle avait raison de faire attention à ce qu'on ait un niveau de langue un peu élevé et un vocabulaire riche. Mais pour moi, dire des gros mots, c'est aussi s'approprier la langue et définir sa personnalité à un moment. Ce qui, entre parenthèses, c'est marrant que j'en parle maintenant parce que, en fait, ça fait 3 jours que Internet me tombe dessus parce que j'ai dit meuf dans une vidéo et que meuf, c'est quand même pas très joli. Hein.
Dans la bouche d'une fille. Fini la phrase.
Voilà. Dans la bouche d'une fille. Ah ouais, le sujet est important. Par contre, elle arrête pas de dire meuf, c'est vulgaire. Hein. mec, c'est vulgaire aussi. Et j'ai désobéi à ma mère là-dessus, pas devant elle.
Il y a des limites quand même au, à l'irrespect de l'autorité, tu vois. Faut pas déconner.
Mais oui, j'ai un langage assez chartier parce que à un moment, ça m'a permis de définir ma personnalité et de sortir de cette de ce carcan de la petite fille sage dans lequel je me suis longtemps mise. Et notamment quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu l'impression de casser cette image de petite fille sage et de dire ok, j'ai envie d'être un peu. Je savais pas qu'on pouvait jouer avec les genres, donc moi je me définissais plus comme un garçon manqué qui joue au foot, qui joue aux jeux vidéo, qui parle de jeux vidéo, qui traîne avec des mecs. Je passais des week-ends en fait avec des mecs parce que on avait une famille, on avait des amis de la famille qui avaient des enfants de notre âge, et du coup c'était 3 mecs, et donc je passais mes week-ends avec 4 mecs. Et j'avais envie de sortir du coup de ce truc de la petite blonde. Toute timide, qui parle pas trop fort et un peu girly, parce que ouais, je pense que, et du coup très longtemps j'ai pas porté de rose parce que sinon je me faisais appeler Barbie quoi direct. Non mais c'était mort hein. Vraiment blonde avec du rose, c'était parti quoi. Donc je pense que ouais, ça a été ça, en tout cas il y a que ça qui me vient à l'esprit là.
Donc tu t'es libérée par l'expression. J'ai la sensation dans ce que tu racontes, entre le journal du lycée, entre le langage, les gros mots, l'expression. C'est par là, en fait, que tu as réussi à sortir du cadre dans lequel on t'avait mise, et comme une Barbie dans une boîte en plastique avec une jolie vitrine.
Mais c'est pour ça que ça compte autant pour moi, en fait, la liberté d'expression de tous et toutes. Quand je suis sortie du lycée, je suis allée à la fac et ça ne m'intéressait pas vraiment les études que je faisais. Je faisais de l'anglais et de l'allemand. Je parlais pas allemand. Très mauvaise idée. Et comme je m'ennuyais à côté, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer l'asso pour laquelle j'ai été bénévole puis dirigeante pendant plusieurs années, qui s'appelle l'association Jet d'encre, qui est l'association nationale pour la défense et la promotion de la presse d'initiative jeune. Et donc c'est l'asso qui intervient justement dans les lycées, dans les collèges, dans les facs ou dans les quartiers et les villes, pour permettre aux jeunes de s'exprimer comme ils le souhaitent, sans aucune censure. Et cet asso donne aussi les moyens aux jeunes de le faire. Et les internets, c'est la même chose en fait. Je vais dire aux meufs, ne vous fermez pas votre gueule. Parlez de ce dont vous avez envie. Parlez de vos passions. Et je pense que c'est aussi important pour moi parce que je me suis rendu compte que en prenant cette liberté dans mon langage et dans ma liberté d'expression, j'ai grandi quoi. J'ai grandi, je me suis épanouie, j'ai trouvé qui j'avais envie d'être. Je sais pas si je le sais d'ailleurs, mais en tout cas j'ai trouvé des méthodes pour essayer de savoir qui j'avais envie d'être. Et je pense que c'est ça qui fait le lien dans tout mon parcours en fait.
Alors, si je reviens au début de ton parcours, c'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ?
C'était quand ?
T'as mis une note, est-ce que tu la veux ?
Ouais, je veux bien.
Mon père sur le canapé.
Oh ! Ah oui, ok, yes. C'est une ambition professionnelle un peu spéciale parce qu'elle est très conceptuelle. Elle n'est pas précise, je ne me suis pas dit... Je veux devenir médecin ou avocate ou vétérinaire ou nourrice. J'avais des potes qui voulaient devenir assistante maternelle. Et je les admirais un petit peu parce qu'elles avaient cet objectif précis en tête. Et moi, je me disais, mais je ne sais pas moi quel métier je veux faire. Mais par contre, ce que j'ai su très rapidement, c'est que j'avais envie de mener ma vie super activement et de décider de ce que j'allais vivre. Et j'avais envie d'avoir une vie pleine de surprises, pleine de changements, pleine de dynamisme. Parce que j'avais en tête un modèle parental un peu pourri du côté de mon père qui passait ses journées sur le canapé parce qu'il était complètement ravagé par l'alcool. Et en fait, je me suis construite en opposition à cette image-là, parce que quand je le voyais dans cet état-là, je me disais, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. cette personne est extrêmement triste. J'ai pas envie de finir comme ça. Et d'ailleurs, ça a été une peur très très longtemps de. Est-ce qu'il m'aurait transmis un gène dans mon ADN qui fait que je risque de me retrouver dans sa situation là, à être malheureux, à m'auto-détruire et à pas vouloir faire quoi que ce soit de ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a drivée. Et je sais que dans ces cas-là, quand on est des enfants de personnes alcooliques, en fait, il y a souvent deux schémas. Il y a des personnes qui sombrent très profondément dans la dépression et qui ont énormément de mal à dépasser ces modèles et qui vont avoir beaucoup de mal à se trouver à trouver un sens à leur vie parce qu'il y aura eu des traumatismes pendant l'enfance. Voilà, il y a des personnes qui vivent comme ça, malheureusement. Et puis il y a d'autres personnes pour qui c'est un gros coup de pied au cul, quoi. Et moi, ça a été plutôt ça, parce que je pense que ma mère a réussi à apporter un équilibre en jouant aussi le rôle du papa et de la maman en même temps. Ouais, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué.
T'avais quel âge environ ?
Il a commencé à boire quand j'avais 2 ans et demi et il a quitté définitivement la maison quand j'en avais 11. Donc ça a été... J'ai grandi avec ce modèle-là, quoi. Et dans un modèle de culpabilité aussi, parce que quand on est enfant d'une personne alcoolique, souvent ce sont des pères... Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, moi, dans mon cas, je pense qu'il y avait un côté pervers narcissique en plus chez lui. Et du coup, il titillait tout le temps ma culpabilité en me faisant croire que je pouvais avoir un impact sur sa consommation. Ce qui arrive parfois dans les histoires de famille comme ça. Et aujourd'hui, je continue à travailler sur ce sentiment de culpabilité qui m'habite, qui fait que je me sens aussi responsable tout le temps des autres. On parlait du fait que je me sens responsable des autres et du care, parce que j'ai toujours eu l'impression que je pouvais avoir un impact sur ce que mon père allait devenir aussi, ce qui n'est pas un modèle sain en fait pour grandir, parce que c'est plutôt dans tes jeunes années, c'est plutôt tes parents qui s'occupent de toi et pas l'inverse. Donc je pense que ça a été un contre-modèle. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup construite.
C'est-à-dire qu'au lieu de développer un sentiment de fatalité et de te dire que potentiellement la vie c'est ça, t'as surtout développé une espèce de réflexe de survie, ouais. De la vie ça peut pas être ça.
Ouais. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je le sens comme un instinct de survie, comme une sorte de il y a une sorte de peur viscérale qui me prend, et là à ce moment-là j'ai deux choix: soit je me laisse totalement paralysée par cette peur, ce qui peut aussi m'arriver sur certains sujets, soit je la transforme en un truc et j'accepte de ne pas savoir où est-ce que ça va me mener, parce que c'est très difficile aussi de lancer des choses, de lancer des projets comme les internets ou comme le hashtag Mon Corps sur YouTube. La veille du lancement du hashtag, j'étais à la rédac avec toi dans l'open space, et quand on a terminé de travailler là-dessus, et que parce que je t'ai demandé ton avis,
on réfléchissait ensemble à quel message tu voulais faire passer avec les internets et comment formuler ce message pour qu'il soit le plus pour qu'il suscite l'adhésion en fait.
Et j'ai eu un gros coup de flip juste au moment de programmer tout ça. Je me suis dit, mais et si je me prends un gros vent une énorme indifférence. Je lance les tweets, je lance la campagne, et il ne se passe rien. Et là, j'ai eu la peur, quoi, la boule au ventre, le truc viscéral de... Je vais peut-être me planter. Et je pense qu'il y a plusieurs années, j'aurais dit, en fait, je ne vais pas le lancer. J'arrête tout et tant pis. Puis c'est pas mon combat, puis je suis pas légitime. Je suis même pas youtubeuse. Pourquoi est-ce que je défends les droits des youtubeuses alors que moi-même, je fais pas de vidéos? Et puis, quelqu'un d'autre va le faire, peut-être, à un moment. Comme la gronde est en train de monter, il y a bien quelque chose qui va se créer. J'ai pas besoin de le lancer. Vraiment, j'avais toutes ces pensées disqualifiantes. Et puis, j'ai eu une autre pensée qui est arrivée, qui a été... Si je le fais pas, personne va le faire. Et en plus de ça, je crois que je préfère avoir 3 misérables likes sur mon tweet et 1 RT et me dire bah, j'aurais touché 3 personnes avec ce message-là plutôt que d'attendre passivement que le problème se règle. Et je crois que j'ai eu raison, en fait. Je suis sûre que j'ai eu raison, d'ailleurs,
merci
aujourd'hui,
de cette autocorrection.
Mais elle a vu grimacer.
Moi, je vais te demander, mais même pire des cas, tu lances ce truc et il se passe rien. Parce que c'est ça ta peur.
La honte.
Ah oui ?
La honte. Tu lances le truc et tu sauces tout le monde et tout le monde est au courant que tu l'as lancé. Mais en fait, il se passe rien et tout le monde se... Je peux pas m'empêcher de voir les gens comme des personnes jugeantes qui se disent « Oh, elle a essayé, elle a pas réussi. C'est mignon. » Je suis ma pire ennemie. Hein. J'ai des pensées négatives qui sont de l'ordre de... Bah, en fait, personne ne se permettrait de me juger de cette façon-là. Et moi-même, je me juge de cette façon-là. Enfin, je suis très dure avec moi-même. Ce qui m'amène à un certain niveau d'exigence et de perfectionnisme avec moi-même, qui me sert souvent. Mais parfois aussi, ça me paralyse, quoi. Ça me fait peur. Mais je me rends compte que, bien sûr, j'ai eu raison. Parce que...
Alors du coup, effectivement, donc tu lances... Alors c'était quand ? C'était il y a une semaine ?
Ouais, c'était jeudi...
Jeudi 24 mai.
Ouais, peut-être. Désolée, j'ai pas la mémoire.
C'est ça, jeudi 24 mai. C'était le matin du 24 mai, donc le mercredi soir, on travaillait ensemble.
Vendredi, du coup.
Ok, alors jeudi 24, on était en train de bosser là-dessus. Ok, et vendredi 25, c'est le grand lancement. Depuis, donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais c'est fou. On a eu énormément d'écho médiatique. Je ne m'attendais pas à ce que ça touche autant les journalistes et les médias. J'ai eu une vidéo brute. Le truc que je n'ai jamais fait et que je n'aurais jamais pensé faire. Parce que c'est un format super difficile, les vidéos de brute.
Alors vas-y, raconte.
Est-ce que je peux le dire que je me suis chiée dessus ou pas ? Peut-être que vous l'avez vu passer d'ailleurs dans vos timelines, parce que moi je l'ai vu tourner beaucoup en fait, cette vidéo. Alors bien sûr, je suis dans un cercle particulier où je suis beaucoup de personnes qui sont féministes, qui suivent les actualités de YouTube, etc. Mais
ils sont venus ici, à la rédaction ? Parce que c'est sur le fond de la rédaction, j'ai reconnu.
Tout à fait, ouais. Et donc le reporter qui est venu pour faire la vidéo m'a donné des consignes qui étaient extrêmement compliquées à mettre en place pour moi, parce qu'il me demandait à la fois d'être... efficace, concise, d'avoir des punchlines et en même temps d'être vulgarisatrice. C'est-à-dire que quand je disais le mot monétisation ou tendance YouTube ou body positive, il m'arrêtait tout de suite et il me disait ça, en fait tu peux pas le dire, il faut que tu trouves des termes plus simples, il faut que tu expliques les concepts. Et en même temps il me disait d'être concise. Donc j'étais dans cet entre-deux, je vais jamais y arriver. Et moi qui avais préparé justement mes idées impactantes à l'avance, je me suis retrouvée désarçonnée parce que les phrases que je sortais, ils me les coupaient en me disant « Non mais en fait, là, t'as mis monétisation et annonce et publicitaire, donc personne va comprendre. » Donc ça m'a désarçonnée, ça faisait longtemps que j'avais pas été... que ma confiance avait été ébranlée comme ça dans une interview, parce que depuis que j'ai commencé... ma carrière associative, ça se dit ou pas ?
Grave, ça se dit.
Depuis que j'ai commencé ma carrière associative, j'ai eu l'occasion de répondre à pas mal d'interviews. J'étais responsable de la com d'une asso nationale, Animafac aussi, donc en fait je faisais des relations presse et tout.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
Mais oui,
c'est vrai.
Parce
que tu m'avais envoyé un mail pour venir me parler de tous les projets de futur.
Oui, c'était trop bien. On avait fait une super campagne sur la visibilité des femmes scientifiques. Et comme quoi, tout est lié. Et donc, on... j'avais l'habitude de répondre à des interviews, mais là, le fait qu'il me coupe et qu'il me demande de reformuler tout le temps, ça m'a fait descendre ma confiance en moi petit à petit pendant tout le truc. Et si bien que pendant la demi-heure où on a tourné ensemble, j'ai eu dans la tête « je suis nulle » et je suis sortie, je suis allée dans la rédac et j'ai dit « j'étais trop nulle ». Et ça m'arrive encore, quoi. Et dans ces cas-là, je me dis, pourquoi ça m'arrive encore de me disqualifier comme ça, de considérer que parce que bah, là, j'ai pas réussi aussi bien que je le voudrais, j'ai l'impression d'être la plus grosse merde du monde, alors qu'en réalité, c'est juste 30 minutes dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, dans ma vie. Donc vraiment, c'est du pipi de chat sur...
Mais surtout, c'est 30 minutes sur un exercice nouveau.
Ouais.
T'avais fait combien de vidéos brutes dans ta vie avant ?
À peu près zéro.
Est-ce que c'est pas normal quelque part de galérer sur un exercice ouais. nouveau et difficile, parce que je pense que, alors si vous n'avez jamais parlé devant une caméra, c'est très impressionnant de regarder un objectif et de parler à un objectif et pas une personne. Et oui, c'est pas une situation de la vie de tous les jours. Et d'habitude, le côté être concis et parler en punchline, c'est ce que les journalistes font au montage. Quand ils te coupent, ils te remontent, même quand ils te citent à l'écrit. Même moi, quand je fais des interviews, là par exemple,
tu reformules.
Bien sûr. Et là, ouais. par exemple, pour les épisodes de Sois Gentil, je prends toujours une citation, un titre. Parfois, c'est pas exactement la citation, je l'ai un peu reformulée.
Fake news.
C'est parce que dans la vie, on parle pas par punchline. Alors, il y a des gens qui font ça et des gens qui sont très bons. Mmh. C'est sans doute, c'est souvent d'ailleurs des gens qui font carrière dans des métiers où il faut être bon là-dessus en permanence. C'est des avocats pour les plaidoiries, c'est des hommes ou des femmes politiques pour les grands discours, c'est des publicitaires pour les punchlines, les slogans marketing. Mais en fait, c'est donc leur métier, donc ils pratiquent tous les jours et c'est pas la première fois de leur vie qu'on leur demande de pitcher leur concept en une vidéo de 30 secondes.
Ouais, et puis on nous apprend pas à parler. Et encore moins nous, les meufs. Hein. Quand, chaque exposé, moi, quand j'étais à l'école, était un moment de flip intense. Je vois, j'avais fait un échange en Allemagne quand j'étais au lycée, et ça m'avait frappé à quel point les élèves prenaient la parole dans la classe. Alors que nous, on a un système qui est super descendant et qui donne pas la parole aux élèves. On y revient, hein, en fait, c'est une question de donner la parole aux gens. Mais du coup, quand on ne te forme pas à prendre la parole et à être efficace dans la transmission de tes idées, forcément, tu galères dès que tu fais tes premières interviews. Parfois, tes pensées, tes mots vont plus vite que ta pensée. Et il n'y a que l'expérience qui te permet de t'améliorer. Les meufs qui se lancent sur YouTube, forcément, leur première vidéo sera jamais... parfaite là-dessus, sur la rhétorique, sur la diction ou sur la façon dont elles transmettent les idées, enfin, efficacement, simplement parce qu'elles ne l'ont pas forcément fait avant, quoi.
Bien sûr. Je reviens à mon corps sur YouTube. Quelle retombée tu as eue en dehors de... Donc là, tu parlais de la vidéo brute qui a permis de continuer à diffuser le message. Est-ce qu'il y a eu des réactions de YouTube ? Est-ce que le sujet... Est-ce que ça bouge, en fait, sur le sujet ?
YouTube nous a fait un pseudo-communiqué par le biais du compte Twitter Team YouTube. autant dire que c'est pas une réponse...
Ok, je vais reformuler. YouTube a répondu. C'est-à-dire que la mobilisation que tu as lancée a provoqué une réponse de YouTube.
Ouais, c'est vrai.
Vas-y, reprends. Ok. Continue.
Ok, on a eu une réponse de YouTube, c'est vrai. Mais c'était une réponse de... Bon, en fait, je m'y attendais totalement. C'était une réponse à base de... c'est pas nous qu'on fait ça, c'est pas nous qu'on gère, c'est les annonceurs. C'est la réponse que YouTube délivre à chaque polémique. C'est pas nous qui gérons. Donc... c'était insatisfaisant pour nous, mais de toute façon, je pense pas avoir lancé cette campagne pour avoir un mouvement. En fait, on a deux axes de développement. Il y a effectivement cet axe-là de faire changer YouTube de l'intérieur en amenant une modification technique du robot de YouTube qui démonétise, mais aussi de l'algorithme de YouTube qui met les vidéos en recommandation ou dans les tendances. Ça, c'est un premier axe qui est de l'ordre du lobbying politique qui demanderait des temps de négociation aux États-Unis, parce qu'en France, YouTube n'a pas la main sur ces questions-là. Moi, je suis plus sensible au deuxième axe, qui est le changement de mentalité dans la société. Et si je l'ai lancé avant tout, c'était pour donner de la visibilité à ce problème-là et pour montrer qu'il dépassait les barrières de YouTube. Il dépasse largement la frontière de YouTube. YouTube n'est qu'un miroir de la société, et c'est dans notre société qu'on a un problème avec le corps des femmes, qu'on a un problème avec la sexualité des femmes, avec les règles des femmes, avec l'endométriose, avec l'accouchement, avec la grossesse, avec leur sein, avec l'allaitement. Je continue. Et il était plus pour pointer ce problème et lancer un débat public sur cette question-là. C'est aussi la question du manque d'éducation sexuelle qu'on a à l'école, du fait que la sexualité et le rapport au corps soient encore des sujets tabous au sein de la famille ou avec nos amis. On n'ose pas aborder ces questions-là, alors que, en fait, si on ne peut pas parler librement de sa sexualité, de la façon dont on se sent dans son corps, c'est très difficile les personnes qui défendent les causes LGBTQ+, sont particulièrement touchées aussi par ce problème-là qui les invisibilise complètement. Donc si on ne peut pas en parler, on ne peut pas permettre à des gens de devenir les personnes qu'ils ont envie d'être et de s'épanouir dans leur vie. Et moi, je crois que c'est un peu... tout ça, c'est pas... C'est pas lancer des campagnes pour lancer des campagnes, lancer des campagnes pour changer le monde, c'est simplement pour permettre à des gens de se sentir mieux dans leur vie.
Et c'est en ça que ça contribue à changer le monde. Ce deuxième axe, comme tu le dis, c'est permet la mise en évidence du double standard qui, jusqu'à présent, était ignoré. Je précise ma pensée. Aujourd'hui, on a l'égalité des droits civils, politiques en France entre les femmes et les hommes et les féministes. Toutes féministes confondues à différents niveaux sur différents thèmes, s'évertuent à pointer les inégalités qui persistent en dépit de cette égalité théorique. Et cette différence de traitement, différence de considération des corps, entre les corps masculins et les corps féminins, dans la société en général, ça fait partie de ces inégalités qui sont niées par ceux qui n'en font pas l'expérience ou qui n'en voient pas les répercussions. Voilà, donc, en pratique, le fait de se dire un homme qui montre ses jambes dans la rue, zéro souci. Une femme qui montre ses jambes dans la rue, des soucis. Pourquoi ? C'est effectivement un problème de société. Est-ce que c'est en mettant un flic à chaque coin de rue qu'on va régler le problème ? Dans un premier temps, on va peut-être contribuer à faire augmenter le sentiment de sécurité des femmes. Il va falloir beaucoup de flics, beaucoup de coins de rue. Mais évidemment que la solution, elle est culturelle, au sens dans la société, une éducation au respect de l'autre. Et tout le monde est d'accord, enfin beaucoup de gens, je pense, sont d'accord sur le principe quand tu le poses comme ça. Oui, je pense que voilà, moi je suis une femme, j'ai envie qu'on me respecte, ou j'ai une sœur, ou j'ai des enfants, ouais. J'ai envie qu'on les respecte. Ok, très bien. Et en pratique, tu fous les gens face à à leur propre paradoxe. Un mec torse nu dans une vidéo de muscu, ça ne choque absolument personne. Voir des tétons pas transparents à travers un soutien-gorge, ouais. En dentelle ou je sais pas quoi, ça serait interdit au moins de 18 ans ou démonétisé, non conforme pour les annonceurs, ou les choses comme ça. Et c'est un combat qui est primordial, en fait. Et effectivement, le dénouement qui est attendu derrière, c'est pas forcément que YouTube arrive en s'excusant en disant vous savez quoi, pardon, désolé,
on s'est trompé,
on n'avait pas vu, c'est quoi, j'avais pas du tout capté le truc, pardon. Non, effectivement, c'est logique qu'il fonctionne comme ça, parce que la société fonctionne comme ça. Et au bout d'un moment, c'est par des mouvements comme Mon Corps sur YouTube qu'on arrive à démontrer, à mettre la société en face de son double standard et de venir dire à quel point c'est pas logique.
Ouais.
Avez-vous remarqué ?
Et puis, y a des humains derrière YouTube. Et donc, en faisant changer les mentalités et en faisant monter ce sujet dans la société, on touche aussi ces humains-là qui n'avaient peut-être pas désobéi justement à cette règle auparavant. Et moi, je me dis que si à chaque fois que j'ai vu des tweets popper avec mon corps, avec le hashtag mon corps sur YouTube, à chaque fois que YouTube a été contacté par des journalistes pour avoir une réponse à nos accusations, Mais j'étais au top de ma vie parce que je me disais, on est en train de les faire chier et peut-être que la personne qui est responsable de la presse chez YouTube, là, qui n'arrête pas de répondre à des coups de fil, potentiellement, ça va, je sais pas, est-ce que ça va la faire réfléchir ? Est-ce que les équipes de YouTube, je suis persuadée que les équipes du YouTube Space à Paris qui notamment portent le programme Elles font YouTube, sont très sensibles à cette question-là, parce qu'elles accompagnent des femmes aussi qui montrent leur corps sur YouTube. Puis, il y a non seulement la question du double standard, mais en plus, il y a des vidéos qui sont démonétisées. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui imitait un chat. Elle a été démonétisée parce que son décolleté était trop profond.
Ouais, j'ai envie de leur envoyer une vidéo de Lacey Green qui date de 2012, je pense, où elle, même avant ça, parce qu'elle a des vieilles vidéos. Et elle fait une vidéo sur ses épaules. Le titre, je crois que c'est « On parle de mes épaules », je sais pas quoi.
Elle a guiche, franchement.
C'est une métaphore pour elle. C'est sain, évidemment. Donc elle s'est foutue du scotch, du gros scotch, ouais, de déménagement sur son décolleté. Et elle fait toute sa vidéo où elle remplace, où elle lit des commentaires, où elle met en scène des situations, où on lui fait des remarques sur ses épaules. Et donc ça montre à quel point c'est débile, puisque c'est... désolée, j'arrive pas à écouter ta vidéo parce que je suis trop focus sur tes épaules. Et la chute de la vidéo, c'est juste, elle a enlevé son scotch et elle fait une tête face cam qui fait « On peut parler d'autre chose, là, c'est bon, vous avez...
Ouais. »
ça date d'il y a 10 ans environ.
Ouais,
quoi.
Parce que le sujet n'est pas nouveau, de toute façon. Mais là, j'ai appris que par une créatrice qui est dans des groupes Facebook de mamans, que sur Facebook, elle rencontrait le même problème avec les photos d'allaitement ou les photos d'accouchement. Et apparemment, Facebook aurait modifié sa politique vis-à-vis de ces photos-là. Et maintenant, dans ta timeline, tu vois des photos de mères qui allaitent parce qu'elles ont réussi à mener le combat auprès de la firme en faisant comprendre que les seins des femmes ne sont pas nécessairement des objets sexualisés, en fait.
Incroyable.
Incroyable. Et moi, je me dis, si Facebook a bougé là-dessus...
Ouais.
Pourquoi YouTube ne bougerait pas là-dessus ?
Effectivement, breaking news, puisque cet article a été publié ce matin, signé par Mimi. Instagram permet désormais de poster des photos où on voit des tétons de femmes. Alors, il le permettait déjà sur certaines photos artistiques. C'est juste qu'encore une fois, il faut passer la censure du robot, qui automatiquement voit un téton et le censure. Et donc, ils autorisent les photos d'allaitement, il y a des photos d'accouchement, il y a tout un programme sur... j'ai oublié le hashtag en anglais, mais c'est pour reprendre le pouvoir, empouvoirement autour de l'accouchement. Et il y a des photos extrêmement, des vidéos extrêmement visuelles sur
graphique.
Vraiment très graphique. On voit l'accouchement, en fait. Donc,
oui, c'est ça.
Sous des angles très directs. Donc, attention.
Est-ce que t'es triggered toi aussi par l'accouchement? Je suis ultra triggered par l'accouchement.
En fait, non. Alors, je plaisante un peu, mais il y a vraiment. Je me souviens d'avoir vu une vidéo d'accouchement en cours de SVT. C'est la nature, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a tout un compte Instagram avec vraiment des gros plans de vulves en train de s'écarter, des têtes qui sortent. Donc, bah, ok. Mais en fait, si ça passe sur Instagram, expliquez-moi pourquoi. Effectivement, une femme torse nue, juste torse nue dans sa vie, ça ne passerait pas. C'est quoi la différence?
Ouais.
Et ça. C'est en train de bouger, mais pour l'instant, on est en train de bouger dans le même carcan, tu sais. Les femmes, c'est la maman et la putain. Enfin, la vierge, la maman et la putain.
Ouais, ouais.
Donc, la vierge, c'est la représentation métaphorique. Donc, les Vénus, toutes ces œuvres d'art, ça passe sans censure. En tout cas, on peut faire tomber la censure en demande de vérif. La maman, la maman vient de gagner contre Instagram et donc, a priori, sur Facebook, dans les mêmes délais. Et toutes les autres, c'est les putains. Et pour l'instant, on est. Voilà, si t'es pas une vierge ou une mère, ton corps est sexualisé par défaut. Et en plus, sexualisé comme tentatrice, comme impure, comme tout ça, quoi.
Je suis en train de relire Simone de Beauvoir. Je prends cher. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Hein.
Relire, c'est-à-dire, c'était quand la première fois que tu les as lues Qu'est-ce que tu lis de Simone de Beauvoir
Le deuxième sexe.
Ok.
Je l'ai jamais lu en entier parce que c'est ardu. Hein. Je m'y étais intéressée au moment où j'ai commencé à développer ma culture féministe. J'y suis arrivée vraiment très tard, je trouve. Enfin, comparée à certaines meufs de Mademoiselle qu'on rencontre, tu vois, des lectrices qui ont 11-12 ans qui arrivent et qui disent « Moi, je suis féministe !»« Oh là là, t'as pris tellement d'avance dans ta vie !»« Si seulement j'avais eu ton avance !» Moi, j'y suis arrivée à peu près à la période où on s'est rencontrés. Je pense que c'était en
2014.
Alors avant. 2011, je pense. Okay. Donc, quand j'avais 22 ans. Je me suis perdue.
T'étais en train de... Donc, tu... C'est la première fois que tu as lu...
Oui, et donc j'avais acheté Simone de Beauvoir en me disant, en fait, je suis en train de construire ma culture féministe et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et Simone de Beauvoir, pour construire cette culture-là, c'est génial parce qu'elle parle des femmes dans l'histoire et dans les mythes et elle explique comment les hommes ont créé cette domination, en fait, dans le monde, autant sur la nature que sur les femmes. Et c'est passionnant, mais par contre, c'est... Faut s'accrocher. Et là, j'en viens justement à la partie mythe où elle raconte comment les hommes se sont appropriés les corps des femmes, comment ils ont mis les standards, les différents standards de normes au sein des cultures, au sein des différentes cultures, en fonction des pays, en fonction des époques. Et je comprends en fait, en lisant ça, pourquoi on en est encore là aujourd'hui. C'est que c'est tellement ancré. C'est vraiment tellement récent qu'on commence à parler des règles des femmes, qu'on, dans certaines cultures, on continue à les considérer comme impures et les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas toucher des objets ou être approchées parce qu'elles sont limite ensorcelées en fait pendant cette période pour certaines personnes. Enfin, c'est... Je comprends pourquoi on lutte autant. J'espère juste qu'on ne se fatiguera pas à la tâche. Parce que quand on voit le peu de chemin qu'on parcourt en tant de décennies, et avec pourtant des personnalités aussi fortes et des idées aussi qui paraissent aussi logiques, qui paraissent aussi basiques et simples, je pense qu'il y a souvent de quoi se décourager.
J'ai failli me décourager, et puis il y a eu MeToo. Vraiment, je pense que s'il n'y avait pas eu MeToo, je ne sais pas si j'allais me décourager dans les mois à venir, mais j'avais un vrai côté. Bon, ça fait 5 ans que je suis chez Mademoiselle, et ça fait 5 ans que j'écris des articles sur le féminisme, et ça fait 5 ans que je me fais traiter de pute et de salope par certains, et de plus en plus de pas assez féministe par d'autres. Et dans un même microcosme, donc dans des mondes qui ne se parlent pas, qui s'ignorent, qui s'entrechoquent qu'au moment d'une élection majeure, où tu te rends compte que comment ça Donald Trump est élu président des États-Unis, comment c'est possible, comment ça Marine Le Pen arrive deuxième, comment c'est possible, et tu te rends compte que la société, enfin du côté féministe, on se rend compte que le combat est loin d'être gagné. et j'ai failli, je pense, traverser une vraie période de oh, pourquoi est-ce que je n'irais pas tout plaquer et vivre ma vie en ermite quelque part, loin de tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait MeToo et que je me rende compte de, en fait, on est nombreuses. Le nombre, on l'a. La vision, on l'a. Tu parlais tout à l'heure de Inspire to Action et de quelle cause mérite de gagner, de l'emporter. La vision, elle est tellement simple et elle est tellement fédératrice de non, on ne veut pas émasculer les hommes, c'est n'est pas le projet. Le projet, c'est juste de vivre tous ensemble dans le respect, en jouissant du même respect les uns et les autres. Les moyens de communication, de mobilisation, on les a.
Mais est-ce que tu crois pas qu'on manque de leaders ?
On les a aussi. C'est juste qu'on en a tellement. On en a tellement.
En fait, nos leaders sont éparpillés, je pense. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à mener de front ce combat-là parce qu'on se répartit les campagnes dans le temps. Enfin, moi, je trouve que des Lorraine Bastide, Rebecca Amselem... Amandine Gay, qui ont ces combats-là, qui pour moi sont des leaders d'opinion, qui amènent des changements de mentalité. En fait, on a l'impression que ces milieux ne communiquent pas. Et d'ailleurs, c'est tout bête, on est en train de préparer l'Assemblée Générale des Internets, là, en juillet. Et j'ai proposé qu'on fasse un temps politique le matin, un temps de débat sur est-ce que les Internets sont une asso politique ? Spoilers, oui. Sauf qu'en fait, il faut que j'arrive à convaincre, moi, les adhérentes et les bénévoles de la portée politique qu'on a et des mécanismes qu'on peut mettre en place pour avoir encore plus de portée. Et pour faire ce temps-là, j'ai proposé qu'on invite plusieurs justement leaders d'opinion qui viendraient avoir un regard un peu global sur les actions des internets, un regard global et critique, négatif, enfin critique négatif donc, aussi.
Oui. Hein.
Et ça résonne pas. Il n'y a pas d'entraide entre nous. On se retrouve parfois sur des événements. On se retrouve parfois sur des tables rondes où on est invité en commun, mais en fait, on fait rien ensemble. Et moi, je pense qu'il y a ça manque d'un mouvement en fait global de. Je sais pas si t'as cette impression-là aussi.
Oui,
mais...
je suis d'accord. Et je reviens. Tu disais, on n'a pas de leader. Si on en a plein, c'est juste qu'elles ne le savent pas et qu'elles ne le revendiquent pas.
Ouais.
Et bah, commencer par nous, tu sais.
Ouais, ouais.
Regarde tout ton parcours et tout ce qu'on vient de se dire et de la façon dont tu racontes même le mouvement Mon Corps, Mon Choix, enfin mon corps sur YouTube. C'est moi, avec mes questions et mes reformulations, qui te fait prendre conscience de... C'est un vrai acte politique et c'était une vraie démarche. Et j'ai pas l'impression que quand on parle spontanément... tu vas réussir toi-même à te positionner en leader de ce truc-là. Alors, pour plein de raisons que j'arrive à comprendre, en plus, hein, de peut-être pas envie de prendre une place qu'on t'a pas donnée, c'est compliqué, plein de choses, machin. Ouais, c'est des questions que je pense que Martin Luther King ne s'est pas posé. Je pense qu'il ne s'est pas posé la question de savoir s'il parlait à la place de quelqu'un d'autre ou s'il était légitime à faire ce qu'il a fait, à dire ce qu'il avait à dire, quoi. Et je pense que, côté femme, on se pose beaucoup trop ces questions.
Ouais, c'est clair.
D'ailleurs, c'est une des questions que tu as rajoutées. C'est bien, je vais te la poser du coup. Tu as rajouté la première fois que tu t'es sentie légitime. C'était quand ?
Je voulais parler de quoi déjà ? Ah, je crois que c'est. Quand j'ai lancé. Oui, ça y est, je l'ai. C'est quand j'ai lancé les internets, il y a 2 ans.
Donc attends, excuse-moi, t'as 28 ans, tu t'engages dans l'associatif depuis quel âge environ ?
15 ans en fait.
D'accord, et tu t'es senti, la première fois que tu t'es sentie légitime, c'était il y a 2 ans ?
Ouais.
Ok, faut que tu racontes, explique-moi. Beaucoup d'années qui passent dans une faille spatio-temporelle.
Ça va pas te plaire.
Moi je ne juge pas, je ne juge pas.
En fait, je crois que je me suis jamais posé la question de est-ce que je me sens légitime à ce moment-là ou pas. Mais c'est en construisant ma culture féministe que j'ai fini par y arriver. Et il y a 2 ans, je me suis sentie légitime quand j'ai lancé les internets parce que j'avais le bagage associatif qui me permettait de regrouper un collectif, de fédérer des gens. J'avais les skills en communication et en wording pour... les emmener avec moi dans la cause.
Pourquoi tu rigoles ?
Parce qu'en fait, je faisais que me rassurer.
Oui.
J'avais besoin de me rassurer et de me... j'avais besoin d'être... comment dire ? De me sentir experte. Tu sais, en fait, ce qui nous retient souvent, c'est qu'on se dit « Je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas experte de tel truc et donc je ne vais pas arriver à le faire. » Et je pense que les internets, je l'ai un petit peu pris comme ça. Alors que, en fait, je n'ai pas... Pourtant, je n'étais pas du tout experte de YouTube. Je ne fais moi-même pas de vidéos. Mais j'avais l'impression d'être... Enfin, quand j'ai senti que j'étais assez... experte dans le fait de monter un collectif, là je me suis sentie légitime. Mais oui, c'est tard. C'est ultra tard pour se sentir légitime. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus contente quand, comme je te le disais, des meufs de 11-12 ans disent « Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Je sais que je suis féministe. Je sais que je suis ambitieuse. » Je suis là « Oh, waouh !» Ouais, vraiment, tu vas te poser plein de questions que moi, je me suis jamais posées auparavant. Tu vas lever énormément de freins que moi je mets, que la société m'a mis, que j'avais pas identifié jusque-là. Et notamment cette question de la légitimité, qui est tellement importante pour avoir confiance en soi et en ce qu'on fait. Et qui est effectivement une question que les mecs se posent absolument. Enfin, pardon, non. Qui est effectivement une question que les mecs se posent moins.
Oui, c'est vrai, Oui, alors je sais pas pourquoi ils sont aussi nombreux à. Être épargné par cette question de la légitimité. mais à la limite réglons le problème de notre côté. Est-ce qu'on peut faire gagner des points de vie à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en leur expliquant que la légitimité n'a rien à voir avec la compétence et l'expérience ? C'est pas la même chose.
De ouf. De ouf.
Parce que t'as répondu à la question.
Ouais.
La première fois que tu t'es sentie légitime, lancer les internets, tu m'as parlé de compétence et d'expérience.
Exactement, ouais, ouais. C'est un vrai problème.
Ça n'a aucun rapport.
Non, c'est... t'as complètement raison de le pointer. Mais surtout, je me demande, est-ce qu'il y a des choses que je me suis empêchée de faire parce que je me sentais pas légitime de les faire ? Tu te poses souvent la question de qu'est-ce que... Enfin, en tout cas, moi, en ce moment, je me pose souvent la question de qu'est-ce que je ne fais pas parce que j'ai peur de le faire ? Et il y a la deuxième question aussi, c'est qu'est-ce que je ne fais pas parce que j'ai l'impression de ne pas être légitime de le faire ? On peut se la poser... Enfin, ces deux-là, vraiment, on peut se les poser tous les jours. Et je pense que ça aussi, c'est un moteur. C'est le fait de me les poser à peu près tous les jours.
Le fait de discuter avec toi me fait réfléchir à la définition que je donnerais de la légitimité, où je me dis, vas-y, on dit que c'est juste la réponse à la question pourquoi ? Pourquoi je fais ça ?
Ouais.
Parce qu'en fait, imagine, je veux devenir rédactrice en chef de Mademoiselle. Situation totalement fictive. Et en fait, moi, je vais postuler, je vais vouloir faire ça, je vais faire des actions pour arriver à ça. Et un jour, quelqu'un me dit... Mais t'es pas légitime à prétendre à ce poste. La réponse à la question que la personne ne pose pas, mais qui est sous-entendue, c'est pourquoi tu vas faire ça, tu vois ? Qu'est-ce qui te prend d'aller demander ce poste, de vouloir faire ça ? Donc si moi, pour moi-même, j'ai répondu à cette question et j'ai répondu je veux être rédactrice chef de Mademoiselle parce que voilà la vision que j'ai, voilà la mission que je me donne, ce que j'ai envie de faire. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui peut venir me dire désolé, pas légitime pour ce poste, c'est le patron Mademoiselle. Et toutes les autres personnes, dans ma tête, ça va, je vais les retourner en fait. Je vais me dire mais qui est cette personne pour me nier ma légitimité à prétendre à ce poste ? Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, carrément. Mais je trouve que c'est même une question qu'on devrait se poser sur tous les sujets. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais pas ça ? On opère des changements de vie très différents quand on commence à se poser cette question-là, je crois. Et on nous apprend pas assez à le faire, se demander. Et je pense que ça amène aussi des... Je crois que j'ai des amis qui se demandent pourquoi qu'à partir de 30 ans et qui, du coup, opèrent ce type de changement de vie. Parce qu'ils se sont pas posé la question plus tôt pourquoi ils faisaient ces choses-là. Et pour autant, on cherche du sens dans nous, tout ce qu'on fait. Et donc, plus tôt tu te poses la question, plus tu gagnes du temps dans ta vie et de l'énergie.
C'est marrant comme depuis que t'es toute petite, tu poses la question pourquoi. Et comme je disais en intro, j'ai l'impression que t'es toujours une petite fille sage, mais que ça t'empêche pas de déplacer des montagnes. J'ai la sensation que c'est exactement ce que tu fais avec mon corps sur YouTube. Tu vas dire à YouTube... Pourquoi tu censures les femmes ?
Ouais, c'est vrai, PK.
C'est sûr. C'est juste que tu te satisfais plus de la réponse. Ouais. Tu comprendras plus tard. Ou, bah désolé, c'est pas nous. Ça n'est pas une réponse à la question que j'ai posée.
C'est donc ça la désobéissance, c'est de pas se satisfaire de la réponse à pourquoi ?
Absolument.
Waouh. Écoute, c'est utile de l'apprendre à 28 ans.
T'imagines qu'on parlait de nos parents et des rôles modèles avant, au début de cet entretien, mais t'imagines qu'il y a des gens qui se posent jamais cette question.
Mais c'est ça.
Donc même à 28 ans, c'est ce que je me dis aussi, moi je vais avoir 32 ans cette année, et j'arrête pas, de temps en temps j'ai des petits flashs de regret, de me dire, oh, putain, comme tu dis, quand je rencontre des gens qui ont 10 ans, 15 ans moins que moi, et qui sont au même point que moi dans leur réflexion sur le féminisme, sur l'émancipation, sur la légitimité, ma première pensée c'est toujours, oh, j'ai perdu tellement. Temps.
Ouais, moi aussi.
Et ma deuxième pensée, c'est toujours, mais pense à celui que t'as gagné.
Ouais, de ouf.
Parce que t'es quand même déjà là par rapport à des femmes de mon entourage beaucoup plus âgées. Alors, je te propose qu'on continue avec les questions.
Okay.
Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort.
Il y a 2 mois, je disais, je pourrais jamais partir toute seule en voyage ou en vacances. C'est vraiment pas mon truc. Parce que pour moi, les voyages, c'est le partage. Et en fait, il y a un mois, je suis partie au Japon toute seule avec un sac à dos. Et c'était une énorme sortie de ma zone de confort parce que je me suis retrouvée confrontée à moi-même dans une période de changement assez intense dans ma vie perso. Et j'avais peur de me confronter à moi-même et de découvrir des choses qui me plairaient pas. J'avais peur de m'ennuyer avec moi-même. J'avais peur de... J'avais peur de m'ennuyer avec moi-même. J'avais peur d'être triste et d'avoir envie de rentrer. Et en fait, c'est le bon terme, la peur. C'est le truc qui fait que j'ai senti que je sortais de ma zone de confort. C'est qu'il y a un moment où j'ai appuyé sur le bouton « acheter les billets ». J'ai regretté instantanément. Deux secondes plus tard, j'étais en train de voir comment faire pour annuler. J'ai pas pu. Non, mais j'avais quand même envie de partir. J'avais envie de partir et c'est ça qui a pris le pas. Mais ouais, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu... Je crois que ça a été la plus grosse sortie de ma zone de confort dans ma vie perso. Et ça a été tellement libérateur. Quand l'avion a décollé de l'aéroport vers le Japon, je me suis jamais sentie aussi fière de ma vie. Je me suis mise à pleurer dans l'avion. Parce qu'il y a quelques mois, je m'imaginais pas faire ça. Parce que je sentais que c'était le bon moment pour le faire et que j'étais en train de devenir une toute nouvelle personne. Et c'était incroyable de m'observer. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps et de me voir assise sur le siège de l'avion. Et j'étais bouleversée d'émotion à ce moment-là. Et je pense que du coup, la fierté qu'on peut ressentir à faire ce genre de choses est à la hauteur de la peur qui nous retient au départ. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant et je crois que je suis en train de devenir dépendante à ces sentiments-là.
En fait, la peur, c'est la clôture de la zone de confort, tu sais.
Ouais.
Et selon ce qu'il y a derrière, tu sais, c'est soit un petit fil barbelé ou carrément des douves avec des alligators, mais c'est de la peur, quoi. Et quand ouais. tu sors de la zone de confort, ben, tu dois traverser la peur. Alors quand c'est des petits trucs, c'est juste un pas. Et quand c'est des énormes trucs, et ben, c'est plusieurs pas,
ouais.
voire des douves avec des crocodiles.
Ouais, de ouf, beaucoup de crocodiles.
Et c'est comme tout à l'heure quand tu parlais de... Si je lance le hashtag mon corps sur YouTube et que personne réagit, ouais. bah c'est la honte. Voilà, c'est une autre défense qu'il y a autour de la zone de confort, la peur, la honte, tout ça. Et souvent, quand tu as traversé et que tu te retournes et que tu regardes ce que tu as traversé, tu fais « En fait, ça va. c'était pas si grave, c'était pas si impressionnant. »
Ouais, grave.
Alors, t'as sélectionné une question que personne n'a sélectionnée jusqu'à présent.
Oh, waouh.
Donc, déjà, première question. Comment t'as compris la question que je pose, le jour où j'ai trahi ma mère? Ça veut dire quoi ça pour toi?
Comment j'ai compris le jour où j'ai trahi ma mère? Je l'ai compris comme le jour où je suis devenue une adulte face à ma mère. Et non, et plus seulement sa fille.
Et pourquoi t'as la sensation que c'était une trahison?
Parce que pour moi, il y a nécessairement un acte de désobéissance ou de une sorte de franchissement de limite qui va avec cet acte-là. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que j'ai dépassé le rôle modèle. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais plus avoir le même rapport avec elle parce que j'allais lui parler d'adulte à adulte. Et ça n'a pas été un chemin facile. Parce que quand on a une relation aussi fusionnelle et proche avec ses parents, s'en détacher, ça se fait souvent dans les larmes.
C'était pas quelque chose de... C'était pas un moment particulier, c'était plus une période?
Ouais, j'ai l'impression que c'était plus une période où j'ai commencé à faire... Je mène une vie très différente de celle de ma mère. J'habite en ville, qui plus est à Paris, où tout va très vite, où on sort beaucoup, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup de choses. Et ma mère a toujours eu une vie super calme, à la campagne, à chercher la sérénité. Enfin, elle aurait une maison au bord de la mer pour sa retraite, elle serait refaite, avec personne autour, elle serait vraiment super heureuse, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à lui raconter tout ce que je faisais à Paris et tous les gens fous que je rencontrais, quand j'ai commencé à être dans les sphères des youtubeurs, à rencontrer des personnalités politiques, parce que j'ai eu une autre vie aussi où j'ai été engagée de façon très discrète politiquement. Ma mère m'a un peu rappelé à la raison une fois, je sais plus, on regardait la télé, et parce que c'est genre je vis dans le genre de maison où la télé est tout le temps allumée en bruit de fond. Dans le genre de maison où la télé est allumée en bruit de fond. Et je crois qu'il y avait une émission, j'ai dû dire un truc du genre « c'est vraiment nul, est-ce qu'on est obligé de regarder ça, quoi ?» Et il y a eu une sorte de rapport de conflit de vie, quoi. Waouh, ça y est, il y a un gouffre qui s'est creusé entre nos modes de vie, entre ce qui nous intéresse. En fait, ce qui t'intéresse, c'est plus forcément ce qui, moi, m'intéresse. Mais en même temps, elle me parlait, tu vois, cette question, parce que je pense que quand t'es une meuf, tu te construis aussi beaucoup par rapport à ta mère, que ce soit effectivement dans le modèle ou en opposition. Et je pense que c'est important de le questionner à un moment, cette façon dont tu te construis.
Et puis t'as eu les deux, selon ce que tu racontes, ça a été un modèle et tu t'es construite en opposition,
ouais.
Ce qui est sans doute un bon équilibre.
Et tu grandis d'un coup, en fait, quand tu réfléchis comme ça.
On arrive sur la fin des questions, donc il en reste 4 et je vais en rajouter une.
Ok.
Le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspiré et pourquoi ?
Est-ce que tu veux que je le redise ? J'ai l'impression de l'avoir dit.
Si tu l'as déjà dit...
Ouais, je l'ai déjà... Ouais, il y a Christiane Taubira en plus, mais j'ai pas cité Cricri.
Non, t'as pas cité Christiane Taubira. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a inspiré chez elle ?
Elle a une force de vie, cette meuf. Sa rhétorique me sidère. Elle est allée contre vents et marées pour la loi pour le mariage pour tous. Et elle s'en est pris, mais tellement dans la gueule. J'ai énormément d'admiration pour Christiane Taubira. Et en même temps, c'est une sorte de force tranquille. Je la vois un peu comme l'océan ou la mer, Christiane Taubira. En fait, tu l'emmerdes pas, c'est une force tranquille. Par contre, t'as vraiment pas intérêt à la voir en ennemi, parce que là, c'est un tsunami, quoi. Et elle dégage une puissance que je trouve admirable.
On parlait tout à l'heure des modèles de leadership au féminin, et bah, par exemple, tu vois, ce que tu viens de décrire, c'est effectivement un modèle. On n'est pas sur Lucy Liu qui décapite tout le monde,
ouais.
Et on n'est pas non plus sur s'excuser d'être là. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'elle s'excuse pas. Elle assume d'être un leader et elle s'excuse pas d'être là, de prendre la parole et dire ce qu'elle a à dire, quoi.
Elle est incroyable. Ma star.
Ta plus grande fierté, qu'est-ce que c'est ?
Oh là là. Je suis un peu émue, en fait. Parce que c'est une très grande fierté. Ce matin, en fait, on a un outil avec les internets sur lequel on communique pour s'envoyer des infos. Et il y a une des bénévoles qui a mis un long message en disant « Les meufs, je suis en train de travailler sur tel projet des internets, j'ai la tête dedans et ça me rappelle à quel point je suis fière de bosser avec vous sur ce projet-là, à quel point je grandis à votre côté, à quel point je me suis épanouie depuis que je vous ai rencontrée il y a 2 ans. » Et c'est... My kind of dope. Ça me rend trop fière de me dire que je suis à l'origine de ce truc qui permet à des meufs de s'épanouir autant. Enfin, je fais ça pour ça, quoi. Bien sûr, il y a les meufs qui bénéficient de nos projets, mais quand en plus elles, les bénévoles ont l'impression de grandir avec le projet et de mener la vie qu'elles ont envie de mener, ça. Je trouve ça ouf.
Alors, la prochaine fois que tu as un doute sur ta légitimité, je pense que tu peux plutôt penser à ce qui te rend fière plutôt qu'à tes compétences et ton expérience sur le domaine.
Okay.
Je pense que ça sera beaucoup plus solide comme base.
Je prends le conseil.
À propos de conseils, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ?
Le pire conseil, oh là là, bah en fait, est-ce que ça va vous surprendre ? Sois discrète.
Ah.
Fais pas de, sois discrète, fais pas de vagues et dis pas de gros mots. Je trouve que c'est le, une fille qui s'énerve, c'est pas joli.
Ouais.
Je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait donné.
Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
C'est en me montrant que je valais mieux que ça. J'avais une... Quand j'étais dans le journal du lycée, on avait une documentaliste qui nous filait un coup de main sur le journal, mais sans en être responsable. Et quand je lui ai présenté mes premiers articles, elle m'a dit « Mais enfin Marie, c'est nul, on peut pas publier ça. » Et elle m'a tellement secouée en me disant ça, elle m'a dit « Je sais que tu peux faire bien mieux que ça. Donc, on ne publiera pas tant que t'en seras pas fière. » Et elle m'a donné le conseil de ma vie, en fait, ce jour-là, quand elle m'a dit « Marie, tu peux faire beaucoup mieux que ça. » Alors que le premier, la première remarque était plutôt négative. Mais je pense que parfois, il faut aussi se faire rentrer dedans pour prendre la mesure des conseils qu'on nous donne, et celui-ci a été le meilleur.
La dernière question que tu as choisie, c'est quoi ton espoir le plus fort ?
Je crois que mon plus grand espoir, c'est que demain les internets n'existent plus et que je m'ennuie.
Pourquoi ?
Parce qu'on aura atteint l'égalité.
Yes.
Parce qu'on n'aura plus besoin de se battre pour ça. C'est ça mon plus grand espoir. C'est que demain on n'ait plus besoin que des assos mènent des combats ou des causes, parce que tout ça, ce sera résolu au sein de la société. C'est un bel idéal. Et j'y vais goutte par goutte. Je mets ma petite mon grain de sel dans l'océan.
Merci beaucoup Marie.
Merci.
C'était passionnant.
Voilà, je suis trop contente. J'étais trop stressée et je me sens tellement honorée d'avoir fait ça avec toi.
Est-ce que tu doutais vraiment du fait que tu serais une bonne invitée pour le podcast ?
Mais bien sûr.
Mais pourquoi ?
Parce que j'ai tellement d'admiration pour celles qui sont passées avant moi. Parce que j'ai tellement d'admiration pour toi. Et en fait, vous êtes des idéaux que j'essaie d'atteindre aussi. Vous êtes des rôles modèles que j'essaie d'atteindre. Et donc, me retrouver sur le même canapé, je me dis, waouh, quelle est ma vie ?
Tu sais, je pense que c'est ça la clé. Je pense qu'on arrivera à faire vraiment progresser les femmes, la condition des femmes en général, quand on prendra toute conscience qu'on a ce pouvoir, qu'on a ce pouvoir de... Nous-mêmes, on a un pouvoir déjà. Et en plus, si on se coordonne un petit peu, si on bosse ensemble un petit peu, si on développe la solidarité entre nous, mais on va tout défoncer. Déjà, on a le nombre, encore une fois, on est 51%.
Ouais.
D'où est-ce qu'on se fait bolosser par les hommes alors qu'on est la majorité, tu vois ?
Viens, on y va, alors.
Allez, c'est parti. Excusez-nous pour cette conclusion un peu rapide, mais on a du travail. Hein. On va défoncer le patriarcat.
Que ça, juste ça.
Allez, c'est parti. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Clémence Bodoc et je te donne rendez-vous chaque jeudi sur mademoiselle.com pour un nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou.